Je reviens à ce qui était le début. Aimer Jésus, nous n'avons que deux choses à faire dans la nuit de ce monde. C'est la petite Thérèse, aimer Jésus et le faire aimer. On ne va pas avoir le temps de parler de le faire aimer, mais nous comprenons tous que le faire aimer dépend de la qualité de l'amour. Le plus important, c'est que la charité reste en nous un feu éveillé, un feu brûlant, capable d'aspirer et d'animer nos actions. Par rapport à ça, rappelez-vous cette idée qu'au fond, notre vision de ce qu'est l'amour est importante dans notre vie d'amour. Il y a une conversion aussi de notre esprit, enfin plutôt une purification de notre manière de voir l'amour. Et j'étais très frappé que pape Benoît XVI n'a cessé de répéter que les choses les plus essentielles de notre vie, c'est-à-dire l'amour et la vérité, sont des dons de Dieu. Il a extrêmement martelé la chose en disant que c'était essentiel de comprendre que c'était des dons. Il a même dit un jour que l'amour n'était pas un commandement, mais un don. Je me souviens, j'avais lu ça à un théologien qui avait frémi. Mais dans quel sens? Dans le sens que Jésus nous demande de laisser, non pas tellement de vouloir aimer, que de laisser l'amour comme une réalité vivante faire ses œuvres en nous et à travers nous. Et ça, c'est une vraie conversion dans la manière de vivre l'amour. C'est-à-dire, on a été tous éduqués à être dans une sorte de tension à vouloir aimer. Et il faut passer à une vie dans laquelle on se dispose à aimer. Se disposer, c'est un maître mot chez saint Jean de la Croix comme chez saint Ignace, se disposer au don de Dieu. On se dispose à accueillir chaque jour de nouveau le don de l'amour, parce qu'il n'y a pas de capital dans l'amour, comme disait le père Finet. C'est une parole qui m'avait frappé. Il n'y a pas de capital dans l'amour. Il n'y a pas de capital, on ne peut pas dire maintenant je sais aimer ou maintenant j'ai de l'amour en moi. On doit chaque jour se redisposer au don de la charité divine. Et laisser cette charité être le vrai moteur de notre vie, ça se fera d'autant plus qu'on cessera de vouloir aimer par soi-même. D'être tendu d'une manière stérile et insensée, à vouloir faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Vouloir le bien est à ma portée, dit saint Paul, mais non pas l'accomplir. Vouloir aimer est à notre portée, mais non pas l'accomplir. Et ce vouloir aimer, s'il est vécu d'une manière trop tendue, il est vécu d'une manière en fait un peu orgueilleuse, comme si on pouvait aimer, or en réalité on ne peut pas aimer. Et donc il faut passer d'un vouloir aimer à un désir d'aimer, à l'espérance. L'espérance d'une vie d'amour, l'espérance d'un amour véritable. Ce n'est pas du tout la même chose de désirer aimer et de vouloir aimer. Parce que dans notre vouloir aimer, d'ailleurs, notre vouloir aimer, on le confond avec l'amour lui-même. Parce qu'on veut aimer, on se dit, ben là, je veux le faire par amour, je veux aimer la personne, je vais faire ceci pour elle. Et en fait, on oublie la première marche, qui est la foi et l'espérance. Dans un don de Dieu. Nécessaire pour que ce soit un amour véritable et non pas une recherche de nous-mêmes secrète. Un amour égoïste et infructueux, comme disait la petite Thérèse. Alors écoutez, une belle image sur numéro 42 du Concile, qui rappelle que Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Sa charité, Dieu l'a répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, première, c'est le chapitre sur la sainteté. La première affirmation, rappeler que la charité, Dieu l'a répandue dans nos cœurs. Mais il ne l'a pas répandue une fois pour toutes, il la répand continuellement dans nos cœurs, par l'Esprit Saint. La charité qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout et le prochain à cause de lui, rappelle ce qu'est la vraie charité, et par conséquent le don premier et le plus nécessaire. C'est ça, faudrait le marteler dans notre esprit. L'amour est un don, le don premier que nous devons rechercher. Et c'est tout à fait ce que dit saint Paul, au Corinthiens, cherchez d'abord la charité, recherchez la charité. Recherchez la charité comme des pauvres, incapables d'aimer. Et pour que la charité, alors écoutez, comme un bon grain, croisse dans l'âme et fructifie. Vous voyez ? De voir la charité comme un grain qui ne demande qu'à croître et fructifier. C'est une réalité vivante. En fait, c'est parce que c'est la grâce sanctifiante de Dieu. L'Esprit Saint est là. Et il ne demande qu'à faire ses œuvres en nous et à travers nous. Chaque fidèle doit s'ouvrir volontiers à la parole de Dieu. Et avec l'aide de sa grâce, mettre en œuvre sa volonté. Participer fréquemment aux sacrements, surtout à l'Eucharistie, aux actions liturgiques. S'appliquer avec persévérance à la prière, à l'abnégation de soi-même. Vous savez, les petits sacrifices de la petite Thérèse, les petits renoncements, les petits actes d'obéissance, c'est pas de l'héroïsme, c'est de la sagesse, c'est pour réveiller en nous la charité, c'est pour que la charité puisse croître et fructifier. Alors là, c'était l'image de la charité comme un feu. Et alors, l'image traditionnelle, c'est que chaque sacrifice, on jette une brindille dans le feu pour qu'il se rallume. Donc, si je fais un petit service, un petit renoncement à ma volonté propre, c'est pas pour prouver que j'aime, c'est pour accueillir le don de Dieu. Et souvent, Dieu nous donne des occasions de faire des petits sacrifices, des abnégations de nous-mêmes dans le quotidien, avant qu'on ait une œuvre à produire. Et parce qu'on aura fait ces petits sacrifices, qu'on sera aussi fait des petites prières dans le secret, au moment où la charité devra nous animer et fructifier, on sera prêt. Bon, ça peut être avant une prédication, une homélie pour un prêtre. On voit qu'on a des petites épreuves avant. Et ça peut être aussi avant une rencontre qu'on n'avait pas prévue. Le Seigneur nous prépare. Mais en fait, on devrait se préparer tout le temps. Et vivre ce qui dépend de nous, c'est un travail de préparation. Alors, souvent, on est inquiet des œuvres. On se dit, comment je vais pouvoir évangéliser telle personne, pouvoir lui parler. On calcule le fruit, alors que le fruit, ce n'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Jésus le dit très clairement quand il dit « Vous inquiétez pas de ce que vous auriez à dire, comment vous auriez à le dire. Sur le moment, l'Esprit Saint parlera. C'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint qui parlera. » Eh bien, sur le moment, il faut y croire aveuglément et pas se soucier de ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire de l'œuvre finale, de l'œuvre qui va venir comme un fruit, mais se soucier du travail préparatoire. Se disposer. Labourer la terre de notre cœur. Donc on dépense beaucoup d'énergie à calculer des choses qui ne dépendent pas de nous. Par contre, le travail qui dépend de nous, on le néglige dans l'illusion qu'on peut aimer. C'est là où je dis la vie chrétienne pourrait se simplifier, parce qu'on se casse la tête pour des choses qui ne dépendent pas de nous, encore une fois, et on ne s'applique pas à ce qui dépend de nous. Et la sagesse consiste à voir, à discerner, à bien voir ce que Dieu attend vraiment de nous. Alors, il attend de nous essentiellement qu'on sache laisser le bon grain de la charité divine. Alors c'est une image qui est dans l'Évangile, l'image du grain comme le royaume de Dieu, comme un grain qui croît et fructifie. Rappelez-vous dans la parabole, dans Saint Marc, on ne sait comment. on ne sait comment l'amour va produire ses œuvres en nous et à travers nous. La dernière chose à faire, c'est d'essayer de calculer quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Schoenborg a eu cette très belle image par rapport à l'apostolat. Il a fait remarquer qu'on vivait dans un monde de programmation. Hein. On n'arrête pas d'essayer de, comment dire, d'imiter le monde des entreprises pour essayer de rendre plus scientifique, entre guillemets, notre activité apostolique. Il y a une tentation terrible qui s'appelle la mentalité techniciste, hein, précisément parce qu'on manque de confiance dans la réalité du royaume de Dieu. Et il a dit, on peut prévoir beaucoup de choses, mais la chose la plus importante à prévoir, c'est l'imprévisible. Ça, c'est-à-dire, chacun de nous peut le prendre en pleine figure, c'est-à-dire... Pensez à tous ces calculs qu'on a faits, rien ne s'est passé comme on avait prévu. Parce que ça se passe de façon jamais comme on imagine. Alors, je continue. Chaque fidèle doit s'ouvrir volontiers à la parole de Dieu. Ça, c'est premier, c'est la foi. On a besoin de se laisser évangéliser à nouveau pour avoir en nous l'espérance de la vraie vie. En fait, c'est ce qu'on a fait pendant cette retraite. C'est ouvert à la parole de Dieu. Là, et avec l'aide de sa grâce, mettre en œuvre sa volonté, participer fréquemment, sa volonté, c'est notre sanctification. Hein, participer pour ça fréquemment au sacrement, surtout l'Eucharistie, aux actions liturgiques, s'appliquer avec persévérance à la prière, à l'abnégation de soi-même, au service actif de ses frères et à l'exercice de toutes les vertus. Alors, quand, la première fois que j'ai lu ça, au service actif de ses frères, je me suis dit, mais ça c'est la charité. Non. Pas la charité, c'est le service actif. C'est pas la même chose. C'est en vue d'avoir la charité. Donc, je peux rendre des services tout en ayant le sentiment que je ne sais pas aimer. C'est-à-dire du service. Je rends des petits services comme un pauvre, en disant Seigneur, je t'offre ma bonne volonté, je fais des petits services. Et si je puis dire. Dépêche-toi de m'envoyer un amour véritable pour que je puisse brûler d'amour, parce que là j'ai le cœur complètement sec, il m'énerve, je suis en colère, et je t'offre, je fais du service actif. Et à ce moment-là, on n'est pas découragé. Et puis on n'est pas dans l'orgueil à se dire, voilà, d'être celui qui est généreux, qui fait des choses pour les autres, on se regarde en soi-même. Qu'est-ce que je suis bien quand même, j'ai encore rendu un service. Non, je fais du service actif comme un pauvre mendiant de la charité divine, en attendant d'aimer vraiment. Encore une fois, là, comme un sacrifice, comme une paille que je jette dans un feu qui est éteint. Service actif de ses frères, l'exercice de toutes les vertus. Et notamment, aux trois vertus évangéliques. L'humilité, la douceur et la patience. Je me permets de le rajouter parce que ce sont des, comme disait Saint François, ça, les petites vertus, des petites vertus qu'on aurait tendance à négliger parce qu'elles sont, elles sont toutes dans la passivité. Il dit Saint François, ça, une belle expression, il dit qu'elles naissent au pied de la croix, ces vertus. Elles vont de pair avec l'acceptation de la croix. Et ce sont les vertus qui peuvent le plus nous disposer à l'amour, les plus connexes à l'amour. Le Père Thomas aimait dire, Père Thomas Philippe aimait dire, si vous voulez savoir si vous avez grandi dans l'amour, regardez si vous êtes plus humble. Donc s'exercer à l'humilité, à la douceur et à la patience, voilà, continuellement, notamment dans... Évidemment, dans toutes ces relations fraternelles. Et heureusement que nous avons des antipathies, des difficultés de caractère pour nous permettre de mieux pratiquer ces vertus. Parce que sinon, on aimerait d'un amour humain et on aurait l'impression d'aimer. Ce qui serait la plus grave des choses, c'est de rester un amour affectif humain en pensant que ça, c'est la charité. Ça, dans le traité de la perfection, Sainte Thérèse d'Avila part en guerre contre les amitiés particulières. Moi, ça m'a longtemps choqué le fait qu'on dénonce les amitiés particulières. Mais les amitiés particulières sont piégeantes au sens de liens affectifs qui nous donnent l'illusion d'une relation d'amour qui serait particulièrement forte, alors qu'en réalité, c'est notre attachement humain qui est fort, mais pas l'amour véritable. Et qu'il faut ici plutôt mortifier cet amour pour laisser place à un autre amour. Alors, penser qu'on a tous les mêmes difficultés à aimer, les mêmes combats. Cardinal Schönborn a insisté pour dire que le Concile avait rappelé, de fait, vous pourrez le lire dans le numéro 3, il rappelle que la sainteté est la même pour tous. Nous avons... Oui, c'est les formes diverses de vie. Dans les formes diverses de vie et les charges différentes, qu'on soit prêtre ou laïque, hein, c'est une seule sainteté que cultivent tous ceux que conduit l'Esprit de Dieu. Donc on a à cultiver la sainteté comme, comme on laboure une terre, la terre de notre cœur, pour que le grain de la charité puisse croître et fructifier. Et dans ce travail, on est complètement à égalité. Je répète le Concile, c'est une seule sainteté, c'est une même sainteté, quel que soit notre état de vie. Il n'y a pas une sainteté particulière au prêtre, ou une sainteté particulière du prêtre, une sainteté particulière des gens mariés ou des religieux. C'est une seule sainteté. Donc c'est pour ça qu'on peut éprouver plus, vous voyez, les formes, les vocations particulières sont différentes, on a des charismes différents, mais sur le terrain de la sainteté, on est à égalité. Et on le ressent spontanément. Les combats des âmes sont les mêmes. Et c'est pour ça qu'on marche ensemble en sentant que, en fait, l'autre, il a les mêmes combats que nous. Hein. Et on voit les failles les uns des autres. Hein. On se rate pas, hein, souvent. On voit mieux les failles des autres que les nôtres. Hein. Mais c'est vrai que, fondamentalement, on se retrouve sur ce terrain du combat de la sainteté, du combat contre notre moi possessif et dominateur, on se retrouve tous à égalité. Ça, c'est important. Parce que à ce moment-là, on vit plus l'aspect de frères et sœurs solidaires dans un même combat. Et on doit tous là-dessus se corriger les uns les autres. Saint Thomas d'Aquin, dans la sainteté logique, pose la question, est-ce que les subordonnés peuvent corriger les supérieurs? Il répond oui. Et c'est connu, c'est une anecdote connue que dans une somme théologique, il y avait un religieux qui avait écrit en marge, j'ai essayé, je vous déconseille. Mais en réalité, fondamentalement, on le sait, on est tous des pauvres, on a tous les mêmes combats par rapport à l'amour et des blessures semblables. Et ici, je vous propose de revenir à une image du pape François, qui est l'image de l'équipe de foot. Alors, une équipe de foot, il n'y a qu'un seul capitaine, c'est Jésus, c'est lui l'entraîneur. Hein. C'est lui l'entraîneur, et si vous relisez les discours du pape aux jeunes au Brésil, hein, vous verrez qu'il est très précis. Quand on fait partie d'une équipe de foot, le but c'est de gagner la partie. Hein. Donc on joue contre une autre équipe. Je me disais, l'autre équipe, c'est les tas de démons qui arrivent à chaque retraite. Hein. Ils sont bien organisés, eux. Hein. Donc c'est équipe contre équipe. Hein. Et le pape dit, mais pour gagner le match, eh bien, il faut s'entraîner avant. Et on s'entraîne ensemble. Eh bien, voilà, le travail de préparation, de sanctification pour que la charité croisse, c'est un travail d'entraînement à plusieurs, sous le mode d'un entraînement sportif. Et vous avez la description dans le concile des différents exercices à mener sous la conduite de Jésus. Et là, on sent qu'on est vraiment tous dépendants les uns des autres, qu'on s'entraîne ensemble et qu'on se stimule ensemble. Moi, je dis ça, c'est le premier boulot, vraiment. Le premier boulot. Le reste est donné par surcroît. Et de sentir qu'on se... comment dire... qu'on peut s'édifier, se stimuler, et puis s'aider concrètement à la fois par l'exercice... l'exercice de l'aveu, l'exercice de la correction, l'exercice de l'humilité, de la douceur, de la patience dans les relations les uns avec les autres, on s'édifie beaucoup plus les uns les autres qu'on imagine. En fait, on ressent beaucoup plus dans son cœur les efforts que fait l'autre dans le secret. Ça nous stimule à avancer. Alors par rapport à ça, j'ai trouvé une autre image chez Sainte Thérèse d'Avila que je voulais vous lire. J'ai longtemps attendu pour vous le dire. Voilà, Sainte Thérèse d'Avila écrit le traité de la perfection à une époque où quand même il y a un incendie allumé par les hérétiques. L'Église est déchirée par la crise du protestantisme. Des églises sont brûlées, il y a des massacres de catholiques, des terres entières qui étaient catholiques passent au protestantisme. C'est quand même une période très dure. Et il m'a semblé nécessaire de nous conformer à ce qui se pratique en temps de guerre. On peut dire que l'exercice de foot, c'est un temps de guerre aussi. Lorsque l'ennemi a ravagé entièrement le pays, le seigneur de la région, qui se voit pressé de toutes parts, se retire dans une ville qu'il fait fortifier avec soin. De là, il attaque, de temps en temps sur l'ennemi, ceux qu'il mène au combat étant tous des soldats d'élite. Vous voyez l'image pour vous.
C'est quel chapitre ?
Ça, c'est au chapitre 3. Jésus qui se réfugie dans des foyers de charité, étant pressé par l'ennemi qui a gagné des régions entières, et qui là forme des soldats d'élite pour ensuite fondre sur l'ennemi. Et elle dit que ceux qui doivent partir au combat les premiers, c'est les prédicateurs et les théologiens. Mais que les prédicateurs et les théologiens, ils vont être les plus attaqués, et que eux, les carmélites, elles les portent. Parce que, elle dit, par rapport à la prédication, qu'il n'y a pas de danger que le monde leur fasse grâce de quoi que ce soit, ni que la moindre imperfection lui échappe. C'est sûr que la moindre imperfection de nous les prêtres, le démon en profite bien. Et le monde aussi. Et il ne nous rate pas. Et donc elle dit, les prédicateurs ont besoin d'une telle vertu, d'une telle vigilance, et d'une telle, que si on n'était pas là, ils n'y arriveraient pas. Voilà, toute humilité. Donc c'est une équipe de foot où quand même on porte celui qui porte la parole, mais en même temps, dans l'entraînement, on est tous à s'entraîner, évidemment. C'est pas que le capitaine ne va pas s'entraîner avec les autres, enfin le capitaine, le prédicateur. Mais j'ai trouvé cette image très éclairante. Vous savez que la petite Thérèse, elle devait bien avoir lu Sainte Thérèse d'Avila, puisqu'elle rentre au Carmel en disant « Moi, je rentre au Carmel pour prier pour les prêtres. » Elle pensait bien qu'en s'attaquant à la tête, ça porterait plus de fruits. Et je ne sais pas si je vous avais lu ce qu'avait dit le démon lors d'un exorcisme où il avait invoqué la petite Thérèse. Non, je ne l'ai pas fait dans une prédication. En tout cas, ça fait partie, je pourrais vous le montrer parce que j'ai les actes du procès de canonisation de la petite Thérèse. Donc un exorciste invoque la petite Thérèse et le démon réagit tout de suite violemment. Et il se met à dire de sa voix, métallique et haineuse, elle m'a arraché quantité d'âmes de prêtres, cette petite mangeuse de prêtres. Et il rajoute, elle est parvenue à l'imbécillité suprême. Et l'exorciste lui fait dire quelle imbécillité, il répond, elle était petite. Le secret, c'est l'humilité. C'est la vertu la plus connexe à l'amour. Dieu donne sa grâce aux humbles. Mais voyez, une petite carmélite, elle a arraché quantité d'âmes de prêtres aux démons. Donc ça c'est le vrai combat au cœur de l'Église, je serai l'amour. Elle a été l'amour en pratiquant l'humilité, la confiance et l'abandon. Et dans le procès de canonisation, il y avait des théologiens qui voulaient faire dire aux sœurs de Thérèse que la voix de Thérèse, c'était l'amour. Ils ont répondu non, la voix de Thérèse, c'est l'humilité, la confiance et l'abandon. En vue d'aimer, en vue de laisser l'amour. Mais ils voulaient leur faire dire qu'elle avait pratiqué l'amour. Et les sœurs tenaient à dire non, elle a pratiqué la voie d'enfance. Elle n'était pas bête, elle savait que l'amour était un don de Dieu. Donc sa voix, c'était la voix de disposition à l'amour. D'ailleurs, elle disait, moi je ne serai jamais aimé comme les grands saints, je suis incapable. Alors Jésus, donne-moi ton amour à toi, parce que si je n'ai pas ton amour à toi, je ne vais pas pouvoir aimer. Donc elle était mendiante d'amour, la petite Thérèse. Alors, je voudrais terminer. Maintenant, si on a bien compris le combat qu'on devait mener, notamment la place de la pénitence comme un travail de labourage continuel de notre cœur pour en nous débarrasser de ce qui gêne l'amour, de ce qui empêche l'amour de prendre possession de notre humanité, de notre cœur et de nos facultés. Que finalement la prière et la pénitence, c'est l'essentiel. Prière et pénitence sauveront le monde. Je vous invite, je vais essayer pour terminer, qu'on comprenne bien la logique du péché et l'engrenage du péché. Fait que ce travail de pénitence, plus jamais, il doit être vécu intelligemment avec sagesse. Parce qu'on est d'abord, on est très faible, on ne peut pas mener le combat d'une manière dispersée et sans comprendre bien l'ordre des choses. Il faut toujours se rappeler qu'il y a un péché originel, pas simplement originel au sens où il est au début de l'histoire de l'humanité, mais originel en chacun de nous. Il y a un péché à l'origine de tous les autres péchés. C'est le même péché qui est à l'origine de tous les autres péchés. C'est la non-foi, le refus de dépendre de Dieu, la non-reconnaissance de Dieu comme créateur. Ici, le père, je ne me souviens plus, qui avait été en Chine, là, qui a fait l'homélie du dimanche, oui, Guillaume-Marie. Il a dit, voilà, vous pouvez, il y a des péchés, bon, les péchés sont plus ou moins graves, mais enfin, ce que Dieu ne peut pas accepter, c'est qu'on n'ait pas confiance en lui. C'est ça qui blesse vraiment son cœur. Ça, c'est péché originel. Et tous ont subi une pression constante du démon. qui cherche à insinuer le doute dans notre cœur. Et personne n'y échappe. Et donc, la parole de Jésus aux pharisiens, qui étaient zélés pour Dieu, quand il leur dit « Vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu, vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu », elle est terrible parce que on peut donc faire tout pour Dieu, apparemment, sans chercher Dieu, sans le connaître, sans l'aimer, en étant en réalité totalement centré sur soi. Ça fait frémir, mais c'est un bon frémissement. Hein? Alors, il faut se rappeler ce péché originel qui est notre premier ennemi, le seul véritable ennemi. Tout repose sur lui dans le péché. Et il faut se rappeler la parole de saint Augustin, « Tu m'as fait pour toi, hein, et notre cœur est, mon cœur est inquiet. Tu nous as fait pour toi, notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi. » La première conséquence de ça, je vous l'ai dit, c'est la peur, l'angoisse. L'homme, après le péché originel, dans le jardin, il apparaît, il a peur. C'est un homme non sécurisé. Cet homme non sécurisé, qui a perdu la seule sécurité, qui sont les bras de Dieu, va chercher à amasser des biens, c'est l'esprit de possession, pour se sécuriser lui-même. Là où est ton trésor, là où est ton cœur, dit Jésus. Donc il va mettre son cœur dans des biens, dans des choses qu'il amasse. Actuellement, il y a une accumulation de connaissances. L'homme moderne, il n'arrête pas de chercher à savoir des choses, à accumuler des compétences, à accumuler des compétences techniques. Ils vont lui donner l'impression de maîtriser les choses, d'être fort. Et dans l'apostolat, on accumule actuellement les techniques d'évangélisation, hein, pour être fort. Parce qu'en fait, on est insécurisé. Et là où est ton trésor, là où tu amasses des choses, là tu mets ton cœur, on s'attache à ces choses-là. On y met son cœur et on avilit son cœur. On le souille. La souillure, c'est l'attachement à ce qui n'est pas Dieu. Et en s'attachant ainsi à ce qui n'est pas Dieu, on ne possède pas les choses de ce monde. Celui qui les possède vraiment, c'est celui qui est détaché. Saint Paul dit, nous passons pour des gens qui ne possèdent rien, nous qui possédons tout. J'insiste là-dessus, l'attachement à la créature conduit à l'impasse au sens où il n'y a pas de vraie union possible. Écoutez saint Jean de la Croix à propos de la nécessité de ne pas se réjouir, de ne pas mettre sa joie dans les choses de ce monde, dans les choses temporelles, comme il dit. Celui qui se détache acquiert une liberté d'esprit et clarté en la raison, un repos, une tranquillité paisible et paisible confiance en Dieu. Évidemment, moins on se sécurise dans l'humain, et plus on peut se confier à Dieu. Il acquiert aussi plus de joie et de récréation en les créatures, s'en désappropriant. C'est du français du XVIIe siècle. De laquelle récréation l'on ne peut jouir les regardant avec un attachement de propriété. C'est-à-dire, il jouit plus des choses que celui qui est y attaché. Ça m'a beaucoup aidé de me rappeler ça. Celui qui se détache de la créature en jouit mieux. Celui qui la cherche à la posséder, hein, c'est, comme dit, c'est un souci lequel, comme un lacet, tient l'esprit en la terre et ne lui laisse dilater le cœur. Ça nous referme sur nous-mêmes et ça nous empêche de nous ouvrir en réalité à l'autre. Un lacet qui empêche le cœur de se dilater et qui tient notre esprit en la terre, l'avilit. Se détachant des choses, il en acquiert une plus claire connaissance pour bien entendre les vérités qui les concernent, tant naturellement que surnaturellement. C'est pourquoi il en jouit tout autrement que celui qui y est attaché, avec de grands profits et avantages. Car l'un les goûte selon leur vérité, l'autre selon leur mensonge. Eh oui, vous voulez jouir des choses, détachez-vous des choses. Voilà ce que disent les mystiques. Nous passons pour gens qui ne possèdent rien, nous qui possédons tout, dit saint Paul. Et dans l'évangile, nous trouvons ça. Celui qui renonce pour moi, maison, champ, tout ça, recevra au centuple. Au centuple dans la qualité de la possession. D'une vraie possession en Dieu des choses. Concrètement, ça veut dire entre personnes humaines qu'on ne jouit bien de l'autre qu'en s'en détachant, c'est-à-dire on ne parvient à une vraie communion, à une vraie union, que dans le détachement. La vraie joie de l'union, on est frais pour jouir les uns des autres dans une relation de communion que l'Église appelle la communion spirituelle, c'est la communion des personnes, la vraie communion, que dans le détachement. Et comme on est habitué à jouir d'une manière malsaine, entre guillemets, oui, à jouir dans un attachement fusionnel, un peu, on a tous été, dès notre conception, aucun de nous n'a été aimé purement d'un amour de pure charité par ses parents, ils étaient tous pécheurs. Donc on a tous été habitués à des relations plus ou moins fusionnelles. Oui, il faut le dire. D'une mère plus ou moins possessive. On ne sait pas ce qu'est la vraie communion. La vraie communion, elle naît moyennant tout un travail de purification. Et on a beaucoup de mal à lâcher une manière d'être en relation d'attachement, d'un attachement mutuel, ces amitiés particulières, des attachements mutuels, qui donnent une jouissance qui n'est pas bonne, d'attachement, qui n'est pas la jouissance, la vraie jouissance de la communion, mais qui nous donne l'impression de vivre, puisque l'homme vit de relations. Et c'est une relation, c'est vrai, mais c'est une relation qui n'est pas saine. Et ces attachements, il faut les mortifier. Ouais, nos ennemis nous rendent plus service parce que nos amis nous piègent plus. Quand je dis amis ici, c'est au niveau des sympathies humaines, voyez. Et donc, moi qui ai été longtemps opposé à cette idée qu'il ne fallait pas avoir d'amitié particulière, je me suis dit, mais l'amitié particulière, c'est complètement desséchant si on renonce aux amitiés particulières. Je comprends mieux. Et Sainte Thérèse d'Avila disait, elle ne voulait pas qu'on soit dans le Carmel plus de 16. Parce qu'elle voulait que tous soient amis, mais de l'amitié en Dieu, la véritable amitié. Moi, j'ai été touché quand on a prié ensemble, c'était vendredi, je crois, que de voir à quel point ce que dit Benoît XVI est vrai, c'est-à-dire que quand on prie Dieu, on n'est pas simplement unis à Dieu, mais on est unis les uns aux autres en Dieu. On se retrouve unis dans la prière et dans l'abandon à la volonté divine. Sainte Thérèse d'Avila disait que ce qui unissait le plus les âmes entre elles, c'était l'amour de la croix. Et en fait, c'est d'être s'aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Quand on est vraiment ensemble dans la même direction, et c'est-à-dire en fait tendu vers Dieu par la prière, mais aussi par l'obéissance à sa volonté, l'abandon, eh bien on se retrouve unis. Comme ça qu'on est unis. L'équipe de foot est unie là, à ce moment-là. Mais à tout à fait un autre niveau que les petites relations quotidiennes qui sont nécessairement, malheureusement, mêlées d'affectifs humains qui fait que bon, on est plus proche de l'un, moins proche de l'autre, tout ça. Ça c'est la Sainte Thérèse d'Avila disait ça, c'est des enfantillages. Elle dit à ses sœurs, arrêtez de dire à ma chère, ma chérie, c'est des enfantillages, il n'y a pas de ma chérie, tous à égalité, nous sommes tous amis en Dieu. Ah, la mortification de l'affectivité, c'est pas de la tarte. Parce qu'encore une fois, on s'est nourri de relations qui à la base n'étaient pas saines. Il n'y a aucune maman qui échappe à un certain esprit de possession. Et ça ne fait pas du bien. Et en plus, on est dans le sein de la mère et dans les premier temps, de toute façon, on n'a pas la grâce du baptême, on n'est pas dans la charité divine, donc nos premières expériences d'amour, elles sont sans la grâce. Bien réaliser ça. On considère que plus de la moitié des blessures sont intra-utérines, dans le sein de la mère, et on était privé de la grâce sanctifiante. On n'avait pas la charité. On ne pouvait qu'être dans une relation fusionnelle avec la mère qui nous a porté dans notre sein. Et puis ensuite, je vous rappelle que le péché originel n'enlève pas. La grâce du baptême n'enlève pas toutes les conséquences du péché originel. Et donc, en réalité, à la base, on est parti sur des voies d'amour qui n'étaient pas les bonnes. On n'a pas. Le démarrage, pour aucun de nous, n'a été bon. On est des blessés de l'amour et on n'a pas su trouver le chemin de l'amour. On a une vie pour apprendre à aimer, mais à la base, personne ne peut dire qu'il a su aimer d'un amour de charité au départ. Le père Thomas Philippe aimait rappeler que seule la Vierge Marie avait aimé Dieu plus que ses parents au départ. Mais chacun de nous, on a aimé nos parents plus que Dieu au départ. On a été dans une relation idolatrique. On a fait passer la créature avant le Créateur au départ. On était dans une dépendance à nos parents, dans une relation, comme on dit, fusionnelle, hein, où l'autre est tout pour nous, quoi. Et donc, après, il y a tout un détachement par rapport aux parents. Hein, celui qui veut me suivre, celui qui ne renonce pas à père, mère, frère, sœur, les détachements par rapport aux relations charnelles, enfin, relations créées par les liens charnels. Et notamment, la relation la plus fondamentale et vitale, c'est la relation à nos parents. Tout ça, ça doit passer par la purification. Et je me souviens d'une conversation avec une thérapeute disant, bon, on fait un travail avec les gens par rapport à des relations qui sont pas des relations qui sont vraiment déséquilibrées avec leurs parents, mais on bute sur un truc, c'est que les gens restent attachés, ils lâchent pas la relation, ils restent attachés, ils veulent pas se détacher vraiment. Et quand on a de la colère contre son père ou sa mère, c'est une forme d'attachement. On est en colère sous forme d'attachement, on ne lâche pas l'autre. Et quand on le lâche que quand on lui pardonne. Le pardon libère dans tous les sens du terme. Mais comme on a du mal à lâcher des attachements qui nous ont nourris, mais pas d'une bonne nourriture. Le détachement de la créature. Alors, je reviens à l'esprit de possession. On cherche à amasser et on cherche une autosuffisance, une volonté d'indépendance, moi par moi, c'est l'orgueil de la richesse. L'esprit de possession va de pair avec l'esprit de domination. On veut maîtriser les choses, maîtriser sa vie, être maître. Pour ça, il faut être riche. Le pouvoir. Avoir, savoir, pouvoir. C'est dans l'ordre. Avoir, savoir, pouvoir. Mais dans l'Église, dans la société, partout, c'est ça qui règne. La possession et la domination. Mais l'Écriture nous avertit qu'à partir de ça, celui qui le décrit le mieux, c'est Saint Paul. À partir de cet esprit-là, il y a plein de passions qui vont se développer. Écoutez Saint Paul. Je suis en 1 Timothée 6, verset 9. « Quant à ceux qui veulent amasser des richesses, ils tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de convoitises insensées et funestes qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent, l'amour des biens. » Vous voyez, tombe dans le piège de toutes sortes de convoitises insensées finales. C'est-à-dire à partir de cet esprit de possession et de domination qui lui-même tire son origine du péché originel, il y a toutes les passions charnelles, les passions désordonnées qui vont se développer et qui conduisent les hommes à la ruine. Rivalité, jalousie, envie, conflit, relations dominant-dominée dans les communautés, victime, bourreau, sauveur, le triangle, vous savez. Enfin, tous ces machins que les psychologues, ils font leur beurre avec ça. Hein. S'il n'y avait pas ça, il y a une profession en moins. Mais... dans la Genèse, c'est présent. Dans la Genèse, ça apparaît tout de suite, il y a la peur qui apparaît, et dans la Genèse, ça apparaît où ? Ça apparaît pas, et tout de suite dans la relation femme. Hein? Rappelez-vous ce que dit Dieu à Ève. Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. Esprit de possession, ici, est plus du côté de la femme, esprit de domination du côté de l'homme. Mais le fait que l'esprit de possession et l'esprit de domination rentrent dans la vie du couple fait expliquer que ça conduit à plein de passions désordonnées qui font qu'à un moment et à un autre, ça explose. Jean-Paul II aimait dire la femme, non, il l'a dit en tant que cardinal, la femme veut être aimée pour aimer, l'homme veut aimer pour être aimé. Je trouve que c'est assez éclairant. La femme veut être aimée pour aimer. Elle est en attente d'un amour qui devrait venir de l'homme. L'homme veut aimer pour être aimé. Vous allez me dire comme ça, ça colle. Mais dans l'homme veut aimer pour être aimé, peut se cacher un esprit de domination. Je rends l'homme la femme dépendant. Un amour premier qu'elle recherche. Et la femme, dans ce vouloir être aimée pour aimer, dans son désir d'aimer, ce désir d'aimer de la femme peut être un désir en même temps de posséder. Actuellement, il y a beaucoup de femmes qui sont à la fois possessives et dominatrices parce qu'elles prennent, elles portent le pantalon en même temps. Elles font les deux. Et l'homme, il est plutôt affaibli. Il y a une crise de la masculinité. Il a du mal à exercer, je dirais, sa masculinité avec la fermeté et la force dont la femme aurait besoin. Donc ça c'est le commun des couples. Hein. C'est le commun des couples. Je pense qu'on a tous eu des familles déjà un peu marquées par ça. Parce que le féminisme, ça a commencé au 19e siècle. Hein. On n'a pas attendu la génération de mai 68 même. Et donc, ça fait des relations où il y a des attachements. Enfin, la crise de la famille, c'est la crise de l'amour conjugal. Évidemment, ça retombe sur les enfants. Et vous comprenez que, et bien que ça fait un engrenage tout ça, quoi. Les enfants sont blessés, les couples explosent. Regardez ce que dit le catéchisme. Adam et Ève ont perdu la grâce de la sainteté originelle. Ils ont peur de ce Dieu dont ils conçus une fausse image. L'harmonie dans laquelle ils étaient établis est détruite. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée. L'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. Leurs rapports sont marqués par la convoitise et la domination. L'harmonie avec la création est rompue. La création visible est devenue pour l'homme étrangère. Tout ça, résultat, la mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Résultat, depuis ce premier péché, une véritable invasion du péché inonde le monde. Invasion du cliché. Sur fond de brisure, c'est le numéro 401. Sur fond de brisure de l'harmonie, la première harmonie c'était avec Dieu, elle a été brisée, l'harmonie entre l'homme et la femme, le couple brisé, avec les enfants brisés, tout brisé, déchiré, blessure. Invasion du péché. Alors après, il nous est dit qu'on reçoit, la grâce d'un amour nouveau. La nature humaine blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance, à l'empire de la mort, inclinée au péché. Il y a une inclination au mal en nous à cause du péché originel. Eh bien, le baptême n'efface pas les conséquences pour la nature affaiblie et inclinée au mal. Elle persiste dans l'homme. Le baptême nous rétablit dans l'union avec Dieu par la grâce du don de la charité, mais n'efface pas les conséquences du péché originel, d'une nature blessée, inclinée au mal. Et on peut se demander pourquoi. Il y a des théologiens qui ont trouvé des réponses un peu... Saint Thomas d'Aquin, par exemple, nous souvient et dit que si le baptême guérissait tout, les païens iraient au baptême par intérêt pour être guéris de tout et non pas pour Dieu. Ah bon. C'est pas ce qu'il a écrit de plus génial. Bon. Ici, le catéchisme dit que les conséquences pour la nature persistent dans l'homme et l'appel au combat spirituel. Plus intéressant. Il y a un combat spirituel à mener. La vie, de toute façon, sur terre, dès l'origine, était une épreuve. Même Marie a eu besoin d'épreuves pour grandir dans la charité. Notre vie sur terre, elle n'était pas faite pour être un long fleuve tranquille, mais des épreuves, c'est pas la même chose que le combat, au sens où, quand le combat, il y a un ennemi. On aurait été éprouvé sans ennemi s'il n'y avait pas eu le péché. Mais là, notre épreuve sur terre est en même temps un combat. Mais ce combat spirituel, dans la lutte contre le péché, contre cette invasion du péché en nous, à partir du péché originel, c'est notre chemin de sainteté. Le saint, c'est celui qui combat jusqu'au bout contre lui-même. En même temps, c'est un combat contre le monde et contre le démon. Mais on craindrait rien du démon ni du monde s'il n'y avait pas des failles en nous-mêmes. Le premier combat, il est contre le combat contre notre moi, hein, possessif et dominateur. Écoutez encore le catéchisme. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès l'origine, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et non sans grands efforts, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Numéro 409. Mes amis, la guérison, c'est l'unité intérieure. Et non sans gros efforts, avec la grâce de Dieu, on pourrait dire plus précisément, avec le avec le Christ comme entraîneur, dans cet entraînement qui est pour la charité, qui est en même temps un combat, réaliser son unité intérieure. Voilà. Voilà ce que nous devons tous rechercher. Que la charité croisse et fructifie de telle manière qu'elle prenne possession de nos facultés. Ce ne soit pas un amour humain blessé et blessant qui nous anime, un amour contaminé par l'esprit de possession et de domination, et que ce soit la charité divine, l'amour pur, qui unifie progressivement notre être en prenant possession de toutes nos facultés. Vous voyez, c'est l'image du levain qui fait lever toute la pâte de notre humanité. Et cette prise de possession de notre humanité par la charité divine, elle ne peut se faire que à travers, évidemment, tout un chemin de purification qui est le chemin de la pénitence, qui doit nous amener donc à la vraie guérison. Guérison à la fois de notre cœur et de notre humanité, de nos facultés psychiques, de notre psychisme, de notre affectivité, tout. Mais ça passe par un dépouillement de ce qui nous faisait, encore une fois, auparavant vivre. Dépouillez-vous de votre premier genre de vie pour revêtir un nouveau genre de vie. Et vous avez entendu le conseil, non sans grands efforts. Vivre d'amour, non sans grands efforts. Petite Thérèse disait, il y a des sœurs qui disent, non, j'y arriverai jamais. Et elle disait, qu'ils fassent comme moi, un grand effort. Et le grand effort, il est dans le détachement, il est dans le renoncement. Ce n'est pas un grand effort pour évangéliser le monde entier. Non. Le grand effort, il est sur nous-mêmes. Le vrai combat, il est là. Alors on fait des grands efforts pour sauver les autres et pour les évangéliser, mais non, le grand effort, c'est le combat sur soi. D'ailleurs, elle a dit, la petite Thérèse a dit, les prêtres disent que nous, on ne fait rien, qu'on n'a rien à faire. Nous, on mène le combat le plus dur, le combat sur nous-mêmes. Et je redis que ce combat, on le mène ensemble à égalité, et on s'entraîne les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on se rend les plus grands services les uns les autres, en menant le bon combat. Alors dans ce bon combat, je vais achever, mais dans ce bon combat, il y a toute la traversée de nos blessures, de nos attachements malsains, de nos colères intérieures, de tout ce qui fait qu'on a été déçu, blessé dès le début, blessé parce qu'on n'a pas été aimé comme on aurait eu besoin d'être aimé. Actuellement, il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui ont manqué d'amour maternel puisque la femme n'a plus le temps de, entre guillemets, d'apporter de la chaleur à ses enfants puisqu'elle est prise par son boulot et elle tient. Combien de femmes sur la paroisse m'ont dit qu'elles travaillaient non pas par envie mais parce que dans des réunions mondaines, si elles ne travaillaient pas, elles n'avaient rien à dire et personne ne les écoutait. C'est-à-dire, on n'est rien si on ne travaille pas. Je me suis battu pour que certaines acceptent de lâcher leur boulot et s'occuper de leurs enfants. Après, elles m'ont remercié, mais j'avais l'impression d'être un peu à contre-courant, quoi, comme on dit. Hein? Donc, et après, ça fait des enfants qui sont quoi? Qui crient la nuit, comme par hasard. Ah oui, ils crient la nuit depuis que je bosse. Ben oui, oui, oui. Ne me demandez pas pourquoi, mais il fait ses dents. Non. Il crie la nuit d'angoisse. Après, ça fait des enfants qui sont en recherche de fusion, en recherche d'un amour maternel qu'ils n'ont pas eu, et puis ils épousent des femmes mères. Ils épousent des femmes mères, comme des petits gamins qui cherchent une deuxième maman. Et puis il y en a même qui disent à leur fiancée, tu seras une maman pour moi. Bon. Non, ça, ça ne va pas. Ça, c'est mal parti. On est mal parti. On vit dans une société où, à la base, il y a de telles blessures que forcément, on est tous mal partis. Et je dis simplement que par rapport à ce combat, il faudrait, pour mener ce combat de la guérison, de nos blessures psychiques et tout ça, garder conscience que le premier ennemi, c'est le péché originel. Et c'est là que la petite Thérèse peut aider. Profiter de nos chutes charnelles pour s'humilier devant Dieu. C'est-à-dire taper un bon coup sur le péché originel. Vous voyez, technique de Thérèse. Je profite bien de mes chutes, je profite bien de mes péchés visibles qui m'humilient, pour taper sur mon orgueil, qui est à la racine. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je connecte mais parce que les péchés charnels humiliants, personne n'en veut. Hein. Se mettre en colère comme ça, c'est humiliant. Exploser, enfin être la gourmandise, c'est humiliant. Enfin tout ça, c'est des trucs qu'on voudrait pas. Hein. Bon. Mais c'est la conséquence finale du péché originel. Alors, voir derrière certaines fautes qu'on commet, voir le moi possessif et dominateur qui se cache derrière. Le repérer, le reconnaître. Et tout de suite demander pardon à Dieu. Mortifier l'ennemi caché. On profite des péchés visibles pour attaquer les péchés invisibles. Mais on ne se contente pas de ravaler la façade en se disant « Oh, je suis encore tombé, il faudrait que je me comporte un peu mieux, je vais mettre un peu plus, je vais arriver à maîtriser mes passions. » Non. Si on arrivait à maîtriser ses passions sans convertir vraiment et purifier en profondeur son cœur, ce serait la cata. Ce serait bien propre sur soi, mais à l'intérieur, plein de saleté. Et donc, bien heureuse chute lamentable qui nous permettent de travailler en profondeur sur le véritable ennemi. Et enfin, il faut se dire qu'il y a un moment ou un autre où voilà, on a tous mal réagi au mal, parce qu'on était marqué par le péché originel. On n'a pas pu assumer le manque d'amour dans la charité divine en se réfugiant dans le cœur de Dieu. Si on avait pu se réfugier dans le cœur de Dieu, profiter de l'absence de la maman pour se jeter dans les bras de Dieu. Mais on n'a pas pu. On a réagi mal au mal. La première réaction du mal au mal, c'est la colère. La colère, c'est ça calme l'angoisse. C'est une réaction de défense. Donc tous, on s'est mis en colère. Il y a des gens qui ont laissé cette colère dégénérer en ressentiment. Pour la plupart, d'ailleurs, je pense. Il y a des personnes qui ont gardé plus de... Je veux dire, des gens qui sont plus... Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont connu beaucoup, beaucoup d'abandon, beaucoup de situations très dures, et ils sont blessés, ils sont affaiblis, ils ont peut-être un peu de colère, mais ils n'ont pas nourri du ressentiment. Je pense à rares personnes, mais qui m'ont dit que c'était sincère, et je sentais qu'elles n'avaient pas eu vraiment à vivre de gros pardons vis-à-vis de leurs parents, parce qu'elles n'avaient jamais répondu vraiment au mal par le ressentiment. C'est rare. Chez la plupart de nous, il y a du ressentiment. Alors, si vous prenez l'image du ressentiment, c'est une plaie dans laquelle il y a du pus. Le pus, c'est le ressentiment. En fait, la blessure, la frustration, l'angoisse, la souffrance du manque, en soi, c'est pas, ça ne nous empêche pas d'être à Dieu. Au contraire, Jésus l'a assumé ça sur la croix. Mais ce qui gêne Dieu, c'est le pu. Qu'as-tu fait du mal qu'on t'a fait? On a mal réagi au mal. C'est notre réaction mauvaise à la blessure qui est gênante, en fait, plus que la blessure. Et le Seigneur ne peut guérir nos blessures que si le pu sort, qu'en faisant sortir le pu. Et pour faire sortir le pu, il rouvre la blessure. Il rouvre la blessure dans des expériences de séparation, d'abandon. On se sent rejeté. Et ça crée des souffrances de cœur énormes. Personne n'a envie de descendre là. Quand le Seigneur réouvre une blessure, ça réveille la souffrance. Personne ne veut ça. C'est pour ça que c'est aussi un chemin long, parce qu'il est délicat, le chirurgien. Donc on ne veut pas, il ne frappe pas la porte, il veut bien que je touche à ça pour que je vais enlever le pus, mais ça va faire mal. Mais j'enlève le pus, j'ai l'opération chirurgicale, tu ne bouges pas, j'enlève le pus, ça va. Donc on est là avec nos résistances, et pour combler le manque, eh ben, on va chercher des misérables consolations, on compense, comme on dit, on passe notre vie à compenser, à compenser un vide que personne ne pourra remplir, si ce n'est Dieu. Ben ça c'est pas une vie. Hein. Bon, il faut prendre le taureau par les cornes, hein, et laisser la tendresse, la miséricorde divine, se répandre en profondeur en nous pour vivre enfin d'une vie d'amour. On peut aimer d'un amour pur qu'on se laisse pénétrer par l'amour pur. Et pour se laisser pénétrer par l'amour pur, il faut dégager le terrain. Et c'est là qu'on braque, hein. C'est là qu'on se braque, hein. Dépurifier le terrain, là. Bon. Donc je dis, par rapport à ça, c'est évident qu'on a besoin les uns des autres. On ne va pas y arriver seul. On a besoin d'être accompagné. Moi, j'ai été admirablement accompagné par une personne qui avait déjà fait le chemin. C'est sûr que si on est accompagné par un psychologue qui est lui-même plus ou moins dans la fusion, qui n'a pas fait le chemin, qui est dans un esprit de domination intellectuelle, machin, ça c'est cata. Bon. La qualité du thérapeute, pour moi, c'est la qualité du chemin qu'il a fait lui-même personnellement. On ne peut pas entraîner l'autre sur un chemin qu'on n'a pas fait soi-même. Alors, des thérapeutes qui ont fait même le chemin, bon, si on a 1/10, ce serait déjà pas mal. Hein. Bon. On ne va pas être trop méchant, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit les limites de la psychologie. Maintenant, le Seigneur peut se servir d'une approche thérapeutique pour un temps, un moment du chemin, nous faire comprendre que pour faire le suite du chemin, on a besoin de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas négliger l'outil de la psychologie, parce que on a besoin aussi à un certain moment, ils peuvent nous aider au moins à ça, les psys, c'est à mettre des mots sur certaines choses qu'on n'ose pas nommer. On a besoin des fois de concepts précis. Disons, oui, là, il y a eu relation fusionnelle. Moi, le mot fusionnel me parle plus bien. Bon, mais on a besoin. Bon. Et puis, il y a des psys qui sont animés vraiment par le bon esprit et qui ont une clairvoyance du cœur et qui peuvent voir plus loin, nous aider vraiment à voir et à discerner. Mais ils sont rares, ceux qui ont une vraie clairvoyance. Hein. Bon. Et qu'est-ce qui reste sinon? Eh bien, je voulais terminer par ça, c'est les agapés thérapie quand même. Il reste le fait de plonger dans un bain, de prendre le temps. Après avoir fait un certain travail, à mon avis, il vaut mieux avoir fait un certain travail avant, de se plonger dans un bain où on s'expose à l'amour divin. Ça veut pas dire, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de raccourci, hein, mais il y a des temps forts qu'on peut vivre. Hein, dans un climat de charité où on s'expose à la miséricorde divine. Moi, j'ai dans le cadre d'une agapée que j'ai pu vivre le pardon, et je pense que c'est une des réponses de Dieu, le fait d'un accompagnement, mais qui soit fait dans l'Esprit Saint, des gens, de l'humanité blessée que nous sommes, pour un vrai renouveau de la vie chrétienne, une unification des personnes dans l'amour. Ça, faut demander à l'Esprit Saint. Il y a deux choses. Il y a le travail quotidien en équipe, où vous pouvez beaucoup les uns pour les autres, et rien ne remplace le travail quotidien. Et puis il y a les moments forts qu'on peut vivre, et éventuellement l'appui d'un thérapeute. Moi, je distinguerais trois choses. Travail quotidien, il n'y a rien qui le remplace parce que l'essentiel, c'est de goutte à goutte. Hein? Il y a les moments où on sent que c'est le moment de plonger pour vivre une expérience plus forte là où on n'a pas la force de plonger parce que c'est trop douloureux. Et puis éventuellement, l'aide ponctuelle d'une compétence psychologique pour nous aider à débroussailler et à mieux éclaircir certains engrenages. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.